Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Et on va lire les textes en vue de la prédication. Donc, la prédication elle-même, elle reposera sur deux versets. C'est dans l'Épître de Jacques, au chapitre 4, ce sera les versets 11 et 12. Mais on va déjà lire depuis le chapitre 3, depuis le verset 13. Donc, le premier texte qu'on lit, c'est dans l'Évangile, dans l'Épître de Jacques, depuis le chapitre 3, verset 13, et on va jusqu'au verset 12 du chapitre 4. Jacques, chapitre 3, verset 13. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il le montre par sa bonne conduite, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dit en vain « Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous » Mais il donne une grâce supérieure puisqu'elle dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Et maintenant les deux versets à proprement dit de la prédication. Ne médisez pas les uns des autres, frères. Celui qui médite un frère ou qui juge son frère médite de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur mais le juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu? Qui juge le prochain? Et puis on va lire deux textes qui font écho. Alors on va commencer par aller dans Lévitique. Dans l'Ancien Testament, au début de la Bible, juste après Exode et avant Nombre. Et puis, c'est Lévitique, le chapitre 19, qu'on lira les versets 16 à 18. Lévitique, chapitre 19, les versets 16 à 18. Lévitique, chapitre 19, verset 16. « Tu n'iras pas calomnier ceux de ton peuple. Tu ne réclameras pas injustement la mort de ton prochain. » « Je suis l'Éternel. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton compatriote, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Et puis encore cinq versets dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7. Les versets 1 à 5. Matthieu, chapitre 7, les versets 1 à 5. Matthieu, chapitre 7, verset 1. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugé. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, « Laisse-moi ôter la paille de ton œil » alors que dans ton œil il y a une poutre? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère.
Avez-vous déjà remarqué les stimulations sonores lorsqu'on est dans un endroit rempli de monde, une grande foule, par exemple dans un match de hockey, de basket, etc. Et vous n'avez aucun bouton pour arrêter ce bruit. Eh bien, ce matin, nous n'avons pas non plus de bouton pour arrêter le bruit de nos pensées dans nos têtes, pour bien entendre la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'œuvre du Saint-Esprit pour que lui nous concentre sur sa parole. Et nous comptons sur lui encore aujourd'hui. Alors, quelle joie de pouvoir ouvrir la parole de Dieu qu'il a préservée, qui est cohérente, qui se répond elle-même. Donc, nous sommes reconnaissants d'avoir notre parole de Dieu qui est cohérente, qui est éclairée par le Saint-Esprit et qui nous transforme. Et ma prière, c'est que ce matin, ce texte que nous allons étudier, que le 411 que nous verrons ensemble, puisse avoir un impact important et durable dans nos vies, dans la mienne en premier et dans la vie de chacun de vous, mes chers frères et sœurs, et de chaque personne qui m'écoute. L'Épître de Jacques est écrit par un homme qui a vécu son enfance et le début de sa vie adulte à côté d'un frère qui a vécu parfaitement. Il a aussi vu ses souffrances, sa manière de réagir sans aucune colère pécheresse, mettant toujours la parole de Dieu en pratique, n'étant jamais impartial, sa foi étant vivante et manifestée par des œuvres claires, qui manifestaient aussi la maîtrise de sa langue, une sagesse démontrée, une connaissance profonde et éclairée de la nature humaine, mauvaise depuis la chute. Oui, Jacques a vécu aux côtés de Jésus-Christ, celui dont Pierre a dit « Lui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude. » T'imagines ça ?« De la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude. » Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et si Jésus a dit un jour que sa nourriture était de faire la volonté de son Père, Jacques pouvait l'attester. Il était témoin. Il a vécu à côté de lui. Jésus plaçait sa confiance totalement en Dieu. Et sa foi vivante se manifestait par des actes concrets. Et ces actes concrets, c'est quelque chose qui tient à cœur à Jacques. On a déjà vu dans cet épître. La manière d'utiliser la langue aussi, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et nous avons remarqué que Jacques parle et passe d'un sujet à l'autre par rebond. Il parle de quelque chose et ensuite, eh bien, ça lui fait penser à autre chose et puis il continue comme ça un peu par rebond dans son épître. Il a commencé, si vous vous souvenez, tout au début, par les épreuves. Comme ça qu'il commence l'épître de Jacques. C'est les épreuves, en fait. Et en parlant des épreuves, il pense à la patience qu'on a dans les épreuves, qui amène à la sagesse. Et là, il se dit, mais la sagesse, en fait, on a appelé à la demander. Et on va la demander avec foi. Et ensuite, il pense aux frères et sœurs dans des situations humbles, qui sont pauvres. Il se dit, mais comment est-ce qu'ils peuvent vivre leur vie de foi et voir la gloire qu'ils ont en Christ? Puis ensuite, il pense, ah, mais il y a aussi les riches. Comment ils peuvent voir leur pauvreté en Christ? Et il passera ensuite au trésor de résister à la tentation. Et il s'arrête quelques instants sur la source de tout bien. Vous vous souvenez de la source de tout bien, selon Jacques? Quelle est la source de tout bien?
C'est dans Jacques 1. C'est Dieu lui-même. Exactement. C'est Dieu lui-même. Et au verset 19 de Jacques 1, on pourra vous bible ouvert dans Jacques, hein, je parcours un petit peu le début là, dans le premier chapitre, au verset 19, il parle pour la première fois des paroles. Il dit ceci, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. » Dans la suite de sa réflexion, il parlera plusieurs fois de l'utilisation des paroles. Par exemple, si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Chapitre 1, verset 26. Ensuite, chapitre 2, verset 1. « Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personnes votre foi en notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. » Souvent, le favoritisme se fait en fait par les paroles que l'on prononce. Chapitre 2, verset 12. « Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Mais encore chapitre 3, verset 1. « Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs. » Des enseignants, parlent beaucoup les enseignants. « Car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. » Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Et là, Jacques commence à parler de la langue. Souvenez, hein, ce petit outil qui peut conduire des grandes choses. Alors là, il prend l'illustration du mors, du cheval, hein, ce petit bout de métal qu'on met dans la bouche du cheval et on peut conduire un grand cheval. Ou encore, qu'est-ce qu'il y avait ? Un gouvernail, petit gouvernail pour un grand bateau. Ou encore un petit feu qui peut embraser une grande forêt. Bon, si vous ne croyez pas qu'un petit feu peut embraser une grande forêt, renseignez-vous sur ce qui se passe au Texas actuellement. Comme des petites paroles peuvent avoir de très grandes conséquences. Et dans Jacques 3, au verset 8, il dit mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Et voilà qu'il arrive au début du texte qu'on a lu. Pour qu'il n'en soit pas ainsi, il faut de la sagesse. La sagesse qui est le moteur de l'utilisation de la langue selon la foi. Et ensuite, il parlera de la constatation, mais d'où vient le problème, en fait, qu'on utilise mal notre langue ? C'est le chapitre 4, au début du chapitre 4, qui parle de ces passions qui guerroient en nous. Et nous avons vu au verset 6, ça c'est fabuleux, quand je l'ai encore entendu tout à l'heure, ça je trouve magnifique. « Il donne une grâce, vous souvenez, supérieure. » Une grâce supérieure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de situation où la grâce n'est pas supérieure. Il n'y a pas de situation où on peut dire Dieu n'a plus assez de grâce. Non, Dieu donne une grâce supérieure, on l'avait vu ensemble. Soumettons-nous, comme il le dit plus loin, approchons-nous de lui, reconnaissons notre misère, humilions-nous devant Dieu et il nous élèvera. C'est tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans l'épître de Jacques et qui nous prépare à entrer dans cette réflexion sur ce petit texte du jour. Nous avons déjà vu dans cette épître de Jacques deux grandes parties. La première, c'était la maturité chrétienne, la foi dans l'épreuve et la tentation. C'est le début, ça. Cette maturité qu'il souligne ici dans l'épître de Jacques. Ensuite, on avait vu la mise en pratique qui démontre la foi. La foi, en fait, elle va se démontrer. Elle va se démontrer dans la gestion de la colère, dans la gestion de la langue, dans la manière de vivre la sagesse, etc. Et aujourd'hui, avec ce verset 11 du chapitre 4, nous arrivons dans une troisième partie que j'intitulerai « Une artillerie ancrée dans la foi contre divers maux ». Une artillerie, donc c'est quoi une artillerie ? Thomas, c'est là, il pourrait vous expliquer tout à l'heure. Donc une artillerie, c'est des armes en fait, hein, ancrées dans la foi pour contrer, pour faire face à divers maux. Et nous verrons que la foi présentée dans ce livre, hein, Jacques est très appuyé sur la foi, eh bien, a pour conséquence d'être antimédisante. La foi est antimédisante. On va le voir aujourd'hui. On verra par la suite que la foi est anti-avarice. La foi est aussi anti-impatience. Et la foi est anti-corruption. Ça, c'est un peu le programme des prochaines prédications sur ce texte de Jacques. Mais aujourd'hui, nous parlerons donc de cette arme anti-médisance. Jacques, ici, dans cette partie, un peu comme dans les proverbes, hein, il donne des conseils qu'on est appelé à vivre. Et aujourd'hui, donc, nous parlerons de cette arme anti-médisance. C'est le 411, vous commencez à comprendre. Si je dis 411, ben c'est Jacques 411, hein, c'est pas trop compliqué. Et si on relit le texte, hein, « Ne médisez pas les uns des autres, frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère, médit de la loi et juge de la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur, mais le juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain ?» Alors ce matin, on va réfléchir à deux choses. La première, c'est... Enfin, deux choses qu'on développera, évidemment. La première, c'est la médisance, c'est quoi ? On va quand même un petit peu réfléchir à cela, d'où ça vient, etc. Quelles sont les conséquences ? Et deuxième point, eh bien, c'est justement la foi anti-médisance. On va comprendre pourquoi je vous dis cela. Donc commençons par cette première partie. Donc le verset 11, hein, on l'a bien en tête. « Ne médisez pas les uns des autres, frères. » La médisance dans ce contexte, le terme qui est utilisé, c'est de dire du mal de quelqu'un. Alors si je prends un peu les autres traductions pour qu'on saisisse un peu le sens, hein, par exemple, « Ne parlez point mal les uns des autres » ou encore « Ne parlez pas l'un contre l'autre » ou « Ne dites pas du mal sur les autres » ou « Ne vous accusez pas les uns les autres » ou « Ne vous critiquez pas les uns les autres ». Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Hein. L'idée du terme original utilisé est « dire du mal de ». Alors la médisance ou la calomnie ont en fait une même idée commune, c'est de dire du mal des autres. Alors je fais une petite différence entre la calomnie et la médisance, là je le fais juste pour qu'on ait l'information, mais ce texte parle des deux. Hein. La calomnie en fait elle implique des accusations mensongères, ce sont des choses qui sont fausses pour salir quelqu'un. Alors que la médisance implique plutôt des propos malveillants mais véridiques, des choses qui sont vraies ou crues vraies de l'autre. On pourrait aussi parler de diffamation, de dénigrement. Et quand est-ce que ce mal est arrivé pour la première fois dans le monde ? Très tôt. En fait, ce mal a vu le jour dès le jardin d'Éden et il a été commis par Satan lui-même qui a dit du mal de Dieu. Et Satan, il a appelé le diable qui signifie accusateur ou calomniateur. C'est son nom en fait. Il est calomniateur. Et cette première calomnie où il a dit « Dieu a-t-il vraiment dit ?» et il a tordu les paroles de Jésus, hein, cette première calomnie de Dieu a eu des conséquences pour l'humanité entière. Alors si l'homme et la femme sont pleinement responsables pour leur péché, ils ont été incités par une parole qui remettait la bonté et les paroles véritables de Dieu en question. Combien souvent la médisance commence par « a-t-il réellement dit ?» ou « tu sais pas quoi ?» ou « t'as entendu parler de... » Ça suscite l'attention de l'auditeur, non ? Quand quelqu'un dit « t'as entendu parler de... qu'est-ce qui va se passer ?» Eh bien, on doit fermer nos oreilles, en fait. Puis là, qu'est-ce qu'on fait ? On les présente. Que Dieu nous garde de prêter notre oreille à la médisance. Mais d'où vient la médisance ? Or, Jacques nous met sur plusieurs pistes dans ce que nous avons déjà vu dans Jacques. C'est pour ça que j'ai fait un peu un tour de Jacques au départ. Et on est au verset 11, hein, Jacques 4, 11. Donc, on va quand même prendre le contexte direct. Le contexte direct, c'est ben, le verset 10, généralement. Donc, le verset précédent. Donc là, il est parlé de « humiliez-vous devant le Seigneur qui vous élèvera ». Donc un acte positif, un acte qui nous amène à faire quelque chose qui est bon et juste. Et juste après, il dit « ne médisez pas ». Eh bien ici, on a un indice qui nous montre que si nous ne nous humilions pas, si nous vivons dans l'orgueil, nous allons entrer dans cette médisance. Parce que l'orgueil incite à la médisance. C'est une technique très utilisée, la médisance, pour s'élever et abaisser l'autre. Enfin, abaisser l'autre pour s'élever, en fait. On salit les autres pour qu'on ait l'impression que les gens nous voient mieux. C'est l'orgueil, en fait, qui fait cela. Dire quelque chose de négatif sur quelqu'un permet de se montrer meilleur, de se mettre au-dessus des autres. C'est un élément, l'orgueil. Ensuite, juste avant, il parle de la sagesse terrestre. Vous vous souvenez des critères de la sagesse terrestre ? Ben, regardez avec moi. Au chapitre 3, verset 16, donc on parle de la verset 15, hein, cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Verset 16, car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toutes sortes d'espèces de pratiques mauvaises. Et là, nous voyons la jalousie et la rivalité. La jalousie et la rivalité, c'est un terrain très fertile pour la médisance. Quand il y a jalousie, généralement, la médisance va être présente. Un exemple très parlant, c'est celui de Aaron et Myriam. Quand ils étaient dans le désert, ils étaient jaloux de Moïse, qui avait la prééminence. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mis à le critiquer, à médire de lui. L'orgueil, la jalousie et la rivalité. Et Jacques, lorsqu'il parle de la langue précédemment, nous met aussi sur une piste. C'est la non-maîtrise de la langue. Quand on laisse notre langue se balader toute seule, tranquille, hein, sans s'en occuper, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle donne libre cours à tout ce qui se passe dans sa tête, tout ce qui tourne. Et généralement, nous allons parler des autres et souvent pas pour leur bien. Et si nous continuons, on pourrait continuer, si nous continuons de voir d'où vient la médisance, nous constaterons ce que Jésus avait déjà dit dans Matthieu 15, 18. Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur. Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur et ceci qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème ou parfois aussi traduit par calomnie. C'est donc un problème de cœur. Et envers qui se pratique cette médisance dans ce texte de Jacques? Eh bien, Jacques insiste. Regardez au verset 11. Ça, c'est quand même assez fort dans le verset. Il insiste. « Ne médisez pas les uns des autres, frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère, médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur, mais le juge. » Vous savez, ce sont généralement les personnes qui nous sont les plus proches, dont nous avons le plus d'informations, qui sont dans un plus grand potentiel de nos médisances, en fait. Parce qu'on a plein d'informations. Parce qu'on vit à côté, parce qu'on voit les choses ou parce qu'on nous dit des choses. Donc apprenons à ne pas médire de nos frères et sœurs. De nos frères et sœurs dans la famille naturelle et dans la famille de l'Église. Et nous serons mieux équipés à le faire vers les personnes qui sont autour de nous. Jacques, dans ce verset 11 du chapitre 4, nous permet également de comprendre ce que signifie médire des autres. En fait, qu'est-ce que ça signifie en vrai? C'est pas juste dire des paroles mauvaises ou négatives vis-à-vis des autres ou en lien avec les autres. Mais celui qui médit, en fait, juge son frère. Il le place sous un joug. On pourrait dire, il le fige dans un rôle, comme lorsque on prend une photo. Une fois imprimé, il n'est plus possible de modifier sa position sur la photo. J'ai bien dit imprimé, comme ça je suis tranquille, parce que sinon, Photoshop et compagnie. Mais une fois que c'est imprimé, vous avez déjà fait des photos, et l'imprimé, puis dire, oh non, j'étais mal placé, enfin, vous changez. Eh bien, la médisance place les personnes dans le même état. Mais dire, c'est comme figer quelqu'un sur une photo, il ne peut plus changer puisque vous l'avez déjà jugé, vous avez déjà émis le jugement. Alors que faire? Eh bien, jeter la photo imprimée de la médisance par la repentance et revenez à la réalité vivante pour que l'autre n'est plus figé et il peut se repentir aussi de ce qu'il vit et vous-même peut-être voir d'autres choses. Donc ça, c'est un premier élément, c'est que quand on médit, eh bien, on est dans un acte de jugement qui fige les choses. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, si quelqu'un vous dit « tu es comme ça », ben qu'est-ce qui se passe? Ben, vous dites ben, « si je suis comme ça, ben, je suis comme ça ». Voilà. Ça vous fige quelque part. Alors, bien sûr, si quelqu'un me dit ça, je dois aussi me dire « attends, là, je n'ai pas à me figer, je veux aussi aller devant Dieu et grandir et progresser ». Mais vous comprenez ce qu'on a comme réaction. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe. Et deuxièmement, la loi de l'Ancien Testament interdisait la calomnie. On l'a lu dans Lévitique 19. Hein, dans Lévitique 19, verset 16, il est dit « Tu n'iras pas calomnier ceux de ton peuple ». C'est très clair en fait. « Tu ne réclameras pas injustement la mort de ton prochain, je suis l'Éternel. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur ». Et là, vous voyez, on est dans l'Ancien Testament et il dit « haïr son frère dans son cœur ». Donc, ce n'est pas nouveau hein, ce que Jésus dit. Il reprend simplement les éléments bien compris de l'Ancien Testament, puisque Dieu n'a pas changé. « Tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton compatriote, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Un texte qu'on connaît bien dans le Nouveau Testament. Mais il vient de là, en fait. Et ce texte termine parce que Jacques appelle la loi royale. La loi royale, c'est justement Jacques 2:8, hein, vous pouvez revenir dans Jacques 2, verset 8, qui dit « Sans doute, si tu accomplissais la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Mais dire « ce n'est pas aimer » et persévérer dans la médisance en la justifiant, c'est se mettre comme juge de la loi de Dieu et la considérer comme moins bonne que notre avis, que notre médisance. Alors, si vous deviez maintenant expliquer la médisance à un jeune enfant, vous lui direz quoi? D'ailleurs, il y en a ici, donc il faut que je leur explique. C'est quoi la médisance? Bon, enfin, on raconte une petite histoire, ça aide. Hein? Un petit garçon, parce que les garçons, ils médisent aussi, hein, qui s'appelle Sven, aimait bien raconter des histoires sur les autres, surtout se moquer et dire des choses méchantes. Et il se sentait supérieur aux autres en faisant cela. Et un jour, dans la cour d'école, une petite fille est venu et l'a regardé dans les yeux et lui a dit devant tout le monde qu'il était de mauvaise compagnie, qu'il avait de trop petites oreilles et que sa langue était si grande qu'elle se demandait comment il faisait pour ne pas s'étouffer. Et tout le monde a bien rigolé et elle est partie toute fière. Et ce jour-là, Sven a commencé à comprendre que médire fait du mal. Fait du mal à beaucoup. Et en rentrant à la maison, Dieu conduit les choses comme ça, parfois, il a commencé à lire l'histoire de Jésus. Et il a vu qu'il n'a jamais dit une parole de moquerie ou de mal de quelqu'un pour se sentir supérieur. Puis ce soir-là, il se dit, mais est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi? Suite de l'histoire au prochain épisode. Prochain point. La première application est donc de commencer à détecter ces médisances dans nos vies. Car si on ne les voit pas, il n'est pas possible d'y faire face, d'en être purifié et de s'en détourner. Alors le premier point, il n'est pas très joyeux, vous êtes d'accord? Ça nous montre plutôt le problème. Ben oui, c'est important de le faire aussi. Mais peut-on en sortir? Quel est notre espoir? Ben c'est le deuxième point. Deuxième point, c'est la foi anti-médisance. C'est vrai que là, on peut un peu plus dans le verset 12. Il y a un seul législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Donc on va écarter un élément, on commence par la fin du verset. On pourrait dire que la foi en nous est inutile. La fin du verset dit « Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain ?» Ou bien on peut encore dire « Ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil hein, !» Et tu verras comment enlever la paille de l'œil de ton frère. Ce n'est pas en nous que nous trouverons les ressources pour être délivrés de la médisance. Oui, c'est vrai, on peut faire quelques efforts, mais on se rendra vite compte que les efforts que l'on fait, eh bien, on s'améliorera dans ce domaine-là, on ne dira plus le nom de cet oiseau-là, cette personne-là, mais notre cœur nous donnera une autre idée pour faire différemment, mais pas mieux. Bien sûr, on dira, mais je le fais bien moins que tante Lucie, évidemment. Ou bien moi, je ne dis pas de mal d'oncle Rodolphe, pas comme les autres. Et puis moi, je suis sûr qu'il parle en mal derrière mon dos. Hein. Tu connais la dernière nouvelle ? Non, mais on est terrible. On ne peut pas compter sur nous pour sortir de cette médisance. On dit, mais est-ce que c'est toi qui fixes ce qui est bon ? Est-ce que c'est toi qui as le rôle de trouver les comparaisons qui t'arrangent ? Évidemment, on trouvera toujours pire que nous. Puis si jamais on ne trouve pas autour de nous, bah, on va dans l'histoire, et puis là, on trouve des gens pires, à nos yeux. Mais non, le législateur, c'est celui à qui appartient la création, ce n'est pas nous. Et là, il y a un seul législateur et juge. Lui seul est apte à dire ce qui est bien, ce qui est mal, et ce qui n'encourage pas tout le monde à juger n'importe comment. Ce n'est pas à n'importe qui de juger. En fait, Dieu, le seul législateur qui est le seul, quelque part, qui est apte et qui a le droit de juger, il a délégué cette tâche de juger à des personnes dans des rôles d'autorité, appelé à suivre ses principes, ses lignes directrices et sa façon de voir. Dieu a délégué cela, c'est vrai, de juger à des personnes dans des rôles d'autorité, appelé à suivre ses principes, ses lignes directrices et sa façon de voir. Ça, c'est les différents rôles d'autorité que Dieu a mis en place et à qui Dieu demande des comptes, à toutes les autorités qu'il a mis en place. Par exemple, les parents envers leurs enfants, hein, les parents doivent rendre compte à Dieu et sont responsables de guider leurs enfants et de leur indiquer et de juger ce qui est bien et mal. C'est leur rôle. Et pour cela, ils devront rendre compte à Dieu. Ils sont appelés à le vivre selon les critères de Dieu. Au niveau de l'État, les magistrats ont le rôle de juger ce qui est socialement acceptable ou non et agir en conséquence. Et les autorités politiques qui établissent les lois et les autorités judiciaires qui les appliquent sont redevables à Dieu qui est au-dessus d'eux. Ils devront rendre des comptes. Il y a un seul législateur et juge, et il est la référence ultime de toute autorité qui est déléguée et qui doit se référer à lui pour s'exercer de manière adéquate. Cela nous permet de comprendre que dans ce contexte, si je lis ce texte de Jacques 4, 11 et 12, que lorsqu'un parent dit à son enfant que ce qu'il fait est mauvais, ce n'est pas une médisance. Voilà, je voulais écarter ça. Il y a des jugements qui existent, mais c'est par des autorités que Dieu met en place qu'il l'exerce selon lui. Ce n'est pas des médisances, c'est un jugement selon la loi de Dieu. Il applique la loi de Dieu pour le bien de son enfant. Par contre, s'il commence à les parler partout de ce que ses enfants font de mal et puis il ne leur dit rien du tout, ben là, on arrive dans la médisance. Okay. Mais cela ne nous indique pas encore comment être délivré de cette médisance. Eh bien, le seul juge est celui, regardez ça, c'est le verset 12, est celui qui peut sauver. C'est l'élément clé ici, c'est celui qui peut sauver. Hein, il peut sauver et perdre, c'est par rapport au jugement. Mais c'est Dieu et celui qui peut sauver. Et avant de venir vers nous pour notre médisance, hein, Dieu peut aussi sauver celui qui fait du mal autour de moi. Puis suivant la médisance, c'est dire du mal de ceux qui sont autour de moi. Il peut aussi les sauver. Il peut les délivrer de leur mal. Pas besoin de raconter partout les fautes de toutes les personnes qui sont autour de nous. Dieu peut les sauver sans que j'aie besoin de faire cela. Et il n'y a pas de situation trop grave ou trop profonde où Dieu ne pourrait pas sauver. Dieu peut sauver de toute situation. Dieu peut sauver de toute situation. Ça, c'est un élément qui, mais pour chacun de nous, devrait être extrêmement encourageant pour nous, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous. Et là, c'est notre cœur hein, qui va être touché. Est-ce que je désire que ceux qui sont autour de nous puissent être sauvés de leur situation? Et parfois, on a besoin de l'aide et de la grâce de Dieu parce que des personnes ont pu nous faire du mal. Et c'est difficile de vouloir ça. Mais Jésus est venu et a payé. Et non seulement il a payé, il est venu nous donner une force et une grâce particulière parce que de nous-mêmes, nous ne pourrions pas vouloir ça pour ceux qui sont autour de nous. Donc il peut nous sauver, il peut sauver celui qui a fait du mal à côté de nous. Et deuxièmement, il peut me sauver de la médisance. Il peut me sauver de la médisance. Dieu peut me délivrer de la médisance. Il me pardonne lorsque je me repens. Il me purifie. Ça, c'est fabuleux. Hein, on a vu avant que c'était important de le voir pour pouvoir en être délivré. Mais quand je me repens, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit pas, non. C'est la 52e fois que tu médis, là. C'est une fois de trop. Voilà, ça va plus. On serait mal, hein? Ah, on serait vraiment pas bien. Non, il peut me délivrer de ce que je vis lorsque je me repens. Bien sûr, il va me donner la force aussi et la grâce de réparer ce que je peux. Parfois, on peut le faire en corrigeant des paroles où c'est nécessaire et en apprenant à dire du bien des personnes au lieu de dire du mal. Dieu remplace en fait les choses qui étaient mauvaises, les mauvaises herbes, par des bonnes choses. Et ça, c'est important de le faire. Si vous désherbez et que vous ne mettez pas des nouvelles choses, c'est des mauvaises herbes qui reviennent. Hein. Si vous n'avez pas fait de jardin, ben, faut en faire un peu une fois. Ma femme dit toujours que tout le monde doit faire du jardin pour comprendre la vie chrétienne. Donc, je l'ai dit maintenant, t'as vu? Voilà, il me fait... Et Dieu nous fait cheminer dans la foi qui va porter du fruit. On a vu un Jacques, il a dit que la foi sans œuvre, elle est morte. Nada, rien du tout, niet. Hein? En fait, ce n'est pas une foi si elle est morte, si elle n'a pas d'œuvre. Et Jacques, en fait, nous montre plusieurs conséquences de la foi vivante qui va nous aider dans notre cheminement d'être délivrés de la médisance. Selon Jacques, la foi produit l'humilité. Franchement, l'humilité, elle va m'empêcher de médire. Parce que quand je médis, le but, c'est de me mettre au-dessus. Mais en fait, si je vis cette humilité en cherchant à voir l'autre supérieur à moi, comme c'est dit dans Philippiens, mais je n'ai pas besoin de dire du mal de l'autre pour me mettre au-dessus. Vous voyez? Donc quand cette œuvre de la foi, hein, ce que la foi produit, l'humilité, ça va m'empêcher de médire. Et en plus, l'humilité, elle est, on l'a vu la dernière fois, elle est aussi motivée parce que nous avons la gloire en Christ, on est au-dessus de tout ce qu'on peut être en Christ, il n'y a pas besoin de chercher cela. Donc vivons cette humilité qui va nous empêcher de médire. Ensuite, la foi, selon Jacques, produit la sagesse d'en haut. On a vu avant la sagesse du monde ou la sagesse d'en bas, quelles étaient les caractéristiques. Regardez avec moi dans le chapitre 3, au verset 17. Quelles sont les caractéristiques de la sagesse d'en haut? Et en lisant ce texte, et en voyant ces caractéristiques, vous vous demanderez, est-ce que je peux faire de la médisance, dire du mal des autres, en vivant ça? Bon, lisons. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Est-ce qu'on peut médire lorsque l'on vit cela? Ce sont en fait toutes des choses que nous réalisons que Christ a vécu parfaitement. Vous dites, comme moi, hein, quand je lis ce texte, je dis, mais moi je ne vis pas exactement ça. J'aimerais bien sûr, je le désire, mais je ne le vis pas exactement. Est-ce que je peux être délivré de toute cette médisance? Oui, parce que Christ l'a vécu. Et Christ nous donne cela, en fait, pour que nous puissions ensuite entrer dans ce chemin où nous grandissons dans tous ces domaines qui nous écarte de la médisance. Mais nous n'avons plus la pression de dire « je dois faire ça parfaitement pour ne plus médire ». Il l'a fait pour que je puisse entrer à sa suite dans ce cheminement. La foi, selon Jacques, produit aussi la maîtrise de la langue. On a déjà vu ça qui va m'empêcher de médire. Et je peux reprendre tous les aspects dans Jacques. Vous pouvez relire Jacques et tous ces aspects qu'il a développés par rapport à la conséquence de la foi va être des antidotes à la médisance. Voilà pourquoi je dis que la foi en Jésus-Christ est une antidote à la médisance. Une foi vivante qui produit des œuvres. Ah, j'ai dit qu'il y avait une petite suite à l'histoire de Sven. Retrouvons Sven, qui, après avoir lu l'histoire de Jésus, a aussi compris qu'il ne pourrait pas faire assez de bien pour se racheter. Il s'est dit, mais avec tout ce que j'ai dit de mal à tous mes copains, bon, tu peux aller demain, puis je peux dire que du bien, mais le mal, je ne peux pas l'enlever. Qu'est-ce qu'il fait ? Il reconnaît sa faute. Il dit, mais Seigneur Jésus, j'ai fait faux, je te demande pardon. Et le lendemain, lorsqu'il va à l'école, eh bien, il rassemble ses copains et puis il leur dit qu'il a demandé pardon à Dieu et qu'il veut leur demander pardon pour toutes les fois où il a dit des choses de mal et qu'il aimerait changer avec l'aide de Jésus. Alors là, tout à coup, il y a un copain à côté de lui. Ben, il commence à se moquer de lui, évidemment. Il se moque de lui, ça arrive, peut-être ça vous est arrivé. Et là, qu'est-ce qui se passe pour lui ? Ben, il se pince les lèvres. Parce que vous savez quel est le premier réflexe ? Ben, c'est de se défendre. Mais il se pince les lèvres. Il dit, non, parce qu'il ben, ne voulait pas retomber là-dedans. Hein. Il est encore tout frais dans ce feu. Bon, il retient ses lèvres. Et là, il y a Mac, un autre copain qui vient vers lui, puis il chuchote dans l'oreille, il dit, je vais prier pour toi. Prie aussi pour moi. Parce que moi aussi, je vais arrêter de dire de mal aux autres. Quel encouragement! Et depuis ce jour-là, c'est devenu des grands amis qui se sont encouragés. Il y a encore eu de temps en temps, des fois, bien sûr, ils ont dit du mal, ils ont dû demander pardon. Mais ils ont été tellement encouragés. Parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient demander pardon à Jésus-Christ, qu'il avait accompli parfaitement cette œuvre et qu'eux pouvaient même s'aider l'un et l'autre à vivre cela d'une manière qui honorait Dieu. Et que chaque fois que l'un tombait, ils n'étaient pas en train de se juger. Ils sont en train de dire, viens avec moi, on va de nouveau vers notre Seigneur pour être pardonné. Donc en conclusion, lorsque vous êtes dans une zone propice à la médisance, appelez le 411. Quand vous êtes dans une zone propice à la médisance, que voilà, tout à coup, il commence à y avoir des choses qui peuvent vous amener à la médisance, appelez le 411 tout de suite. Puis quand vous appelez 411, qu'est-ce qui arrive ? Ben Jacques 411 arrive, évidemment. Ne médisez pas les uns des autres, frère. Ah, merci de me rappeler. Parce que souvent, en fait, on le fait parce qu'on ne se le rappelle pas. Et on va prendre avec la partie du verset 12 qui dit que Dieu est celui qui peut me sauver. Et quand quelqu'un vous dira, je ne sais pas si j'ai le droit de te dire cela concernant Hortense, ou tante Hortense, c'est ce qu'on dit, eh bien, qu'est-ce que vous répondrez ? Donc, je ne sais pas si j'ose te dire ce qui la concerne. Vous savez ce que vous pouvez répondre ? C'est une idée, c'est vrai. Moi, je vous propose encore une autre voix, mais pourquoi pas, le tais-toi, pourquoi pas. Mais c'est un petit peu fort, là. Moi, je dirais, le Seigneur le sait déjà. Et tu vois ce que j'ai besoin de le dire ? Le Seigneur le sait déjà. Et si j'ai besoin de le savoir dans le rôle qu'il m'a confié, bah tu seras certain qu'il faut me le dire. Voyez ? Donc, comme ça qu'on peut répondre. Ou bien si l'on dit, sais-tu ce qu'on dit de Thérèse ? Bien, vous répondez, ah, tu veux dire qu'elle est serviable et empathique ? Ou bien si on vous dit, ouh, j'ai un sujet de prière pénible à partager. Il s'agit d'un péché grave de Gustave. Que vous pouvez-vous répondre ? Ben que s'il a besoin de le confesser, il le fera lui-même. Prions pour que nous ne péchions pas dans nos paroles. Il faut s'entraîner quelque part pour qu'on ait la bonne réponse. Je ne l'ai pas toujours eue. Je peux demander pardon au Seigneur et je veux grandir. Et tout cela, nous le vivons parce que nous avons compris que c'est Dieu qui est au contrôle. Il n'y a pas besoin de tout savoir, de tout contrôler, de tout partager. Ce n'est pas notre rôle, c'est le rôle de Dieu. Et s'il confie ensuite des rôles d'autorité à certaines personnes, ben, ils doivent l'assumer selon leur situation. Ainsi, nous ne prêterons ni nos oreilles, ni notre bouche pour colporter des paroles mauvaises pour notre prochain, qui nous saliront aussi. Vous pouvez peut-être reprendre les trois tamis. J'avais une fois enseigné ça. Tiens, ça fait très longtemps. Vous vous rappelez des trois tamis? Là, moi, je laisse le suspense. Les trois tamis, si vous ne vous souvenez pas ce que c'est, après le culte, vous parlez entre vous, puis si vraiment vous ne trouvez pas, je vous dirai, je suis là. Les trois tamis, c'est un truc très intéressant par rapport à la médisance, justement. Hein? Peut-être que ça vous dit déjà un peu quelque chose. Hein? Mais bon, je laisse le suspense. Pierre, qui a vécu avec Jésus, appuie ce que dit Jacques. Il dit « Ne rendez pas le mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuivre, car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. » Petite parenthèse, vous vous souvenez, quand il parlait de juste dans la parole de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui fait tout juste, c'est quelqu'un qui est en Christ, dans celui qui est juste. Paul donne aussi un précieux conseil aux Romains, Romains 13:8, qui rejoint aussi ce que dit Jacques, il dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Et Jésus nous a parfaitement et totalement aimés. C'est tellement bon, ça. Celui qui s'est approché de Christ parmi vous peut se dire « Il m'a parfaitement, totalement aimé. » Parfaitement. Et pourtant, il me connaît. Hein. Il connaît mes pensées, il connaît tout ce que j'ai pu faire, toutes mes attitudes. Qui, c'est vrai que si moi, j'étais à sa place, j'aurais quand même la peine. Mais il m'a totalement aimé, parfaitement aimé. Et cela pour tous ceux qui s'approchent de lui. Si quelqu'un ne s'est pas approché de lui encore, mais venez à lui. Et nous pouvons ensuite puiser dans cet amour pour la donner. Et on va utiliser toute l'énergie qu'il nous donne. On n'est pas dans un hamac, on dit « Ok, j'attends qu'il me donne l'amour là, et puis après je verrai. » Mais non, il vous a donné de la force. Enfin, les forces que vous avez reçues, utilisez-les. Il ne va pas vous demander plus que les forces que vous avez. Mais les forces que nous avons, nous allons les utiliser pour vivre d'une manière qui plaise à Christ. Et ainsi, tous connaîtront, quand nous nous aimons les uns les autres, que nous sommes ses disciples, qu'il est notre source et qu'il peut devenir la leur. Donc cette semaine, si vous vous trouvez tout à coup sur le terrain de la médisance, hein, dis, tu connais la dernière nouvelle, qu'est-ce que vous faites ? 411, tout de suite. Et puis 412 aussi. Hein. 411, c'est « ne médisez pas » et 412 qui vient juste après « Dieu peut nous sauver ». Nous allons prier. Par tes paroles que tu as créé le monde, tu as dit et les choses étaient. La parole, tu nous l'as donnée aussi en tant qu'être humain. C'est un outil extrêmement puissant. Et j'aimerais te remercier pour tout le bien que les paroles que nous avons déjà pu dire a pu faire. Merci parce que chacun ici a déjà pu dire des paroles qui ont encouragé d'autres, qui ont fait du bien. Et nous voulons te dire merci pour cela. C'est tellement précieux. Nous avons besoin d'entendre des encouragements. Nous avons besoin d'entendre des bons conseils. Nous avons besoin d'entendre
lorsque nous allons peut-être sur un mauvais chemin, pour être encouragés à aller sur un chemin qui nous amène à la destinée éternelle, qui nous permet de vivre aussi la conscience paisible. Mais Seigneur, nous sommes conscients aussi que trop souvent nos paroles n'ont pas été un outil de bienfait. Et j'aimerais, Seigneur, m'humilier et te demander pardon pour cela. Et te prier de m'aider, de nous aider à nous éloigner de la zone de médisance. Que nous puissions avoir ce réflexe lorsqu'il y a des phrases tellement habituelles que l'on entend qui nous indiquent que la prochaine phrase ou les prochaines choses qui seront dites ne sont pas juste que quelqu'un a besoin de parler de ce qu'il vit pour être déchargé, mais que c'est réellement quelque chose qui fait du mal. Seigneur, donne-nous en même temps de la compassion et donne-nous en même temps de la sagesse, afin que nous soyons capables d'écouter lorsque tu le désires pour soutenir et encourager, et que tu nous aides parfois à ne pas écouter, afin de soutenir et d'encourager. Merci parce que toi, tu le fais de cette manière-là. Et c'est vrai que parfois, tu ne réponds pas à nos prières justement, parce que nous le faisons d'une mauvaise manière. Oh, aide-nous, Seigneur, à entrer dans tes voies. C'est les meilleures. Et j'aimerais te remercier pour cet encouragement puissant et fabuleux que tu peux sauver. Il n'y a pas de situation où tu ne peux pas agir. Tu es le Tout-Puissant. Merci pour cette grâce. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.